Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue à la présentation des résultats du premier semestre 2020 du groupe Lumibird. Merci d'être avec nous ce matin, et merci de l'intérêt que vous portez au groupe Lumibird. Nous faisons encore cette présentation malheureusement par vidéoconférence, donc compte tenu des contraintes sanitaires du moment. Donc j'aurai le plaisir de faire cette présentation accompagnée de Madame Aude Lomblon-Gourand, secrétaire générale du groupe, de Monsieur Pierre Balalta, conseiller stratégique en finance, et de Monsieur Jean-Marc Gendre, directeur général délégué du groupe. Alors peut-être en préambule, donc avant donc de passer en fait donc sur la présentation que vous nous avons fait passer, peut-être quelques points donc de résumé donc qui vont fixer un petit peu les esprits. Nous sommes donc dans un contexte de crise donc sur ce premier semestre, et je pense que nous pouvons dire que nous avons démontré en fait donc une certaine résilience donc sur les marchés en fait donc que nous adressons, donc avec un recul donc limité de l'ordre de -11%, moins 11,5%. Et malgré tout, donc comme vous l'avez vu en fait dans la publication, donc une amélioration en fait de la marge. Par ailleurs, donc sur les résultats en fait donc de S1, vous pouvez déjà également donc voir l'apport donc des nouvelles activités donc enfin du groupe, donc notamment en fait Allo sur la partie lidar et Optotech donc sur la partie médicale. Nous n'avons pas parlé enfin d'Elex donc pour le moment sur S1. Mais tout ceci en fait donc nous conforte en fait donc dans notre stratégie de développement donc, du groupe donc qui est en fait donc basée en fait donc sur le choix donc d'une part des marchés en fait donc adressés, à savoir donc lidar, défense, médicale, en fait, qui sont en fait des marchés, donc comme nous le démontrons, des marchés résilients, mais bon, des marchés donc à forte croissance. Donc, et qu'on pense également donc dans notre stratégie en fait de croissance externe, donc par les choix en fait des cibles donc que nous avons faites, et notre capacité à les intégrer. Donc, enfin, vous verrez en fait donc au travers des chiffres. Donc, j'espère en fait donc ces éléments donc qui sont clés et encore donc qui sont encore une fois donc qui sont extrêmement donc sécurisants donc pour la suite de l'aventure de la construction du groupe Lumibird. Alors, donc je vais passer donc maintenant, si vous voulez bien, donc à la présentation. Donc, je vais faire le suivi en fait donc de cette présentation. Donc, et rappeler en page 5 bon, les chiffres clés du groupe. Donc, Lumibird, donc, vous savez tous maintenant, donc, leader donc, du laser, qui opère en fait sur la partie pôle laser, qui a deux grands pôles, donc le pôle laser et le pôle médical. Donc, un chiffre d'affaires global, donc, pro forma, donc, sur la base du pro forma 2019 de 151,7 millions d'euros. Donc avec une marge qui s'affiche donc à 15,6%, c'est-à-dire à 23,7 millions d'euros. Donc des effectifs moyens de 800 personnes, 800 collaborateurs donc répartis sur 7 sites de production donc dans le monde. Donc un groupe fortement tourné vers l'export. Qui a de bonnes capacités de développement, donc avec des investissements donc importants donc en R&D, donc voilà donc une ETI donc en marche donc en croissance donc sur ces marchés. Donc vous avez le graphe donc sur votre droite donc sur les derniers exercices avec à la fois donc la croissance donc organique donc visible et puis donc les marches donc supérieurs donc qui sont passés avec les croissances externes donc le 151 donc avec les 7 millions d'euros s'expliquant donc par la jonction en fait donc du groupe Elex. Donc sur le la passons sur la page 6 donc l'impact donc de cette crise sanitaire Qui pour nous, comme vous l'avez déjà rappelé, essentiellement un impact sur notre capacité à livrer. La crise a été au plus dur en fait, à partir de mars, donc a évolué en fait jusqu'à juin. Le groupe s'est structuré pour garder et maintenir ses capacités de fabrication et de développement. Alors effectivement on a pris du retard, mais la bonne nouvelle c'est que on n'a pas perdu de part de marché, on n'a pas perdu de clients, c'est bien dans ce sens qu'on parle de résilience sur les marchés qu'on adresse. Malgré cette crise, on a évidemment été très prudent, et on l'est toujours, compte tenu de certaines incertitudes qui demeurent. La maîtrise des charges est de ce point de vue-là essentielle dans des contextes qui sont un petit peu perturbés. Le travail a été fait. Aude vous donnera les chiffres. C'est déjà visible sur le résultat. Nous avons bien maintenu tout ce qui est cash. Nous avons renforcé notre structure financière. Financièrement, non seulement nous avons travaillé les marges brutes, les charges, nous avons renforcé notre structure financière, notamment pour nous projeter sur les développements à venir. En page 7, vous avez les chiffres de l'activité sur S1. L'explication de l'évolution sur le premier semestre, un chiffre d'affaires pro forma un chiffre d'affaires qui s'établit à 46,2 millions d'euros et avec Elex qui s'établirait à 65 millions d'euros. Sur les faits marquants de 2020, pôle laser, pôle médical, je passerai assez rapidement. C'est assez mitigé selon le secteur d'activité. Le scientifique, le médical, scientifique industriel, pardon, un retrait de 8%, qui est expliqué essentiellement par la fermeture des universités. À l'inverse, on a eu de très bonnes nouvelles sur la livraison de nos lasers sur la réparation des écrans plats, ce qui a partiellement compensé la baisse sur les universités. Sur le deuxième semestre, les perspectives sont toujours très très bonnes sur la partie industrielle. Le scientifique, lui a quelques difficultés à se sortir de cette crise sanitaire, même si ça redémarre sur certaines zones géographiques. Sur le LIDAR, une performance globale positive, avec une croissance. C'est sûr qu'on est fortement aidé par l'activité d'Allophotonique, qui rajoute non seulement du chiffre d'affaires mais également de la marge. C'est là pour le coup un domaine qu'on a évidemment souhaité pousser particulièrement cette année, accélérer sur un certain nombre de programmes pour bénéficier de ces effets positifs. Là, il y a vraiment une belle perspective de croissance sur ces activités système, LIDAR. On a également en point positif participé à une activité intéressante aux États-Unis sur une livraison assez intéressante sur du LIDAR sur des systèmes de détection d'obstacles aéroportés. Nous avons poursuivi de façon générale nos développements qui ont attrait là, pour le coup, à l'automobile. Même si ça ne s'est pas traduit par du chiffre d'affaires, quoi qu'il en soit, en fait, donc l'activité de développement donc sur le LIDAR, notamment le LIDAR ADAS, donc extrêmement active aujourd'hui avec nos clients donc qui continuent de nous supporter. Sur la défense spatiale, bon, le retrait nous est expliqué par le planning donc de livraison en fait donc des contrats donc ça n'est pas du tout en fait donc une décroissance en fait donc liée à des pertes de contrats, tout au contraire puisqu'on a donc été honoré en fait de certaines belles commandes en lien donc avec ce que nous faisons déjà en fait donc sur avec bon, des clients comme Thales donc qui nous ont en fait donc renforcé en fait sur des développements donc de laser donc et de télémètre donc et sur le spatial donc là aussi donc de nouveaux contrats qui sont arrivés donc en S1 donc qui devraient pour une partie en fait donc être facturés sur S2. Sur le pôle médical donc une activité en retrait donc de 16% donc lié expliqué essentiellement donc par l'annulation des grands congrès donc d'ophtalmo donc en Europe donc qui sont générateurs de chiffres d'affaires donc un ralentissement donc en Amérique latine et aux États-Unis. Ceci étant donc on a quand même donc vu donc sur notamment donc le deuxième semestre donc une tendance à la hausse donc donc un bon remplissage en fait du carnet de commandes donc ce qui nous projette sur S2 donc dans de bonnes conditions. Alors nous allons passer donc maintenant donc sur la partie donc plus donc financière. Et je vais laisser en fait donc Aude donc commenter donc la partie marge donc pour commencer.
Bonjour à tous, merci Marc. Le premier semestre, Marc l'a dit, a été marqué par la confirmation de la résistance de nos marges opérationnelles dans un contexte de repli d'activité et par la solidité du modèle financier, que je répète SFAF après SFAF, mais qui se confirme semestre par semestre, après semestre. Bien sûr, effectivement, le premier semestre a été marqué par des effets conjoncturels défavorables. Le repli de l'activité lié au Covid, Marc en a parlé, donc moins 11,5%. La fraude aux moyens de paiement qu'a subi notre filiale Allo Photonics, donc un effet ponctuel. Et pour le Covid, j'aime à penser que ce ne sera pas un élément qui va devenir structurel. Sur ce semestre, nous avons également bénéficié d'effets structurants assez favorables. Premièrement, la consolidation de la marge des activités historiques, sur le laser comme sur le médical, mais également, dans un deuxième temps, les effets de l'intégration, enfin, les effets positifs, pardon, de la stratégie d'intégration verticale menée par le groupe, et donc notamment par l'intégration des activités de systèmes LIDAR, comme apportées par Allo Photonics, et également les activités d'Optotec dans la division médicale. Et troisième fait structurant, c'est la maîtrise de nos charges externes, qui était une action, je dirais, qui est récurrente, permanente, et qui a été renforcée dans le contexte de crise sanitaire. S'agissant de la solidité du modèle financier, les résultats du groupe et sa situation de cash flow et de bilan démontrent le souci que le groupe met et la priorité que le groupe met à la préservation de sa flexibilité financière. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais elle se concrétise par une situation d'endettement financier net au 30 juin de 10,6 millions d'euros post-acquisition d'Elex. Et donc également une capacité, du fait de cette flexibilité financière, la capacité du groupe à réaliser ses opérations de croissance externe, notamment structurante, avec la concrétisation de l'acquisition d'Elex intégrée au 30 juin 2020. On le reverra quand on parlera du bilan. Les chiffres clés maintenant illustrent ces points. Voilà. Ils traduisent donc, ce qu'on peut retenir de ces chiffres clés, c'est effectivement le repli de l'activité de moins 11,5%, donc un chiffre d'affaires à 45,8 millions d'euros à fin du S1 2020. Donc un repli qui est lié principalement aux effets donc, de la crise sanitaire. Et pour autant, une rentabilité opérationnelle courante qui est en progression de 9,7% s'agissant du ROC et en termes d'excédent brut d'exploitation, une progression de 13,3%. Et je reviens également sur l'endettement financier net, donc qui reste tout à fait satisfaisant à 10,6 millions d'euros. Si l'on veut rentrer un petit peu plus en détail dans la composition du résultat opérationnel courant et de ce qui a permis au groupe de préserver et de maintenir ces niveaux de marge, je vous présente cette première analyse qui démontre quoi? Qui montre quoi? Que cette amélioration du résultat opérationnel courant, elle est principalement portée par l'activité, par la division, pardon, laser, puisque l'excédent brut d'exploitation sur cette division progresse de 1,3 million d'euros et le résultat opérationnel courant de 0,7 million d'euros. Dans cette division LIDAR, pour moitié, cette augmentation, cette progression provient de l'intégration des activités Allo pour 0,6 million d'euros. Et s'agissant de la division médicale, l'amélioration du taux de marge constaté sur cette division a permis de compenser pour partie le retrait de l'activité liée essentiellement à la situation sanitaire et donc à la crise du Covid. En synthèse, l'évolution du ROC que je vous présente sur le slide suivant. Démontre, on part d'un ROC de 2,6 millions d'euros au S1 2019. Ce ROC a été évidemment amélioré sur le S1 2020 du fait d'une croissance externe, les 0,6 millions d'euros. Ça, c'est un premier élément, essentiellement porté par la division laser. Ce ROC a été impacté par l'effet de la baisse d'activité sur la marge à hauteur de 5,2 millions d'euros. Cette baisse de marge liée à la baisse d'activité, elle a été compensée d'une part par l'effet d'amélioration du taux de marge sur les activités du groupe historique, qu'il s'agisse du laser ou du médical, et par également l'évolution, donc la baisse des charges externes nettes et donc de l'effort mené de façon continue par le groupe pour garder en maîtrise ces charges externes. L'évolution, l'amélioration du taux de marge, elle provient essentiellement là sur le semestre, d'un effet de mix au sein de nos activités qui, sur le S1, nous est plutôt favorable. Je vous ai décomposé dans les tableaux sur la droite la décomposition de cette évolution du ROC par nature, par division, qui vous donne ces tendances qui sont communes aux deux divisions. S'agissant maintenant, je dirais, du résultat net qui ressort à moins 1,9 million d'euros, par rapport à ce maintien à cette résilience de notre rentabilité opérationnelle courante, le résultat net, le semestre, est impacté par des éléments significatifs non récurrents. D'une part, l'impact de la fraude aux moyens de paiement subie par notre filiale Allo Photonics à hauteur de 4 millions d'euros, incluant les coûts que nous engageons pour trouver à recouvrer ces sommes, et également les coûts liés aux effets de périmètre. Donc, en application d'une norme IFRS, l'ensemble des coûts directement engagés pour la réalisation et la concrétisation des opérations de croissance externe, dont Elex, sont enregistrés entre le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel. Sur le premier semestre, le groupe a engagé 0,9 million d'euros à ce titre. On a les charges sur le premier semestre et on bénéficiera des effets pleins de ces opérations sur le second semestre, à partir du second semestre. Un tout petit commentaire sur le résultat financier, il augmente légèrement, ou en tout cas il passe de moins 0,3 millions d'euros à moins 0,5. Ceci est totalement en lien avec la hausse de la dette financière moyenne liée aux opérations, et notamment les opérations de financement de nos croissances externes dont j'ai parlé. Et dans ce travail de constitution de la flexibilité financière, le groupe travaille également à un maintien et à une stabilité de son taux annualisé de la dette, qui effectivement, comme vous pouvez le constater, reste lui stable entre les deux semestres. Et donc, au final, sur l'exercice, le groupe extériorise un résultat net de moins 1,9 million d'euros. S'agissant du bilan maintenant, déjà, premier élément significatif, il intègre Elex, donc acquisition au 30 juin 2020. Elex n'a pas d'impact sur notre compte de résultat, mais a un impact certain sur nos positions bilancielles, vient un petit peu faire bouger les masses. Donc ça, c'est un premier élément, je dirais, à retenir sur le bilan au 30 juin. Deuxième élément important, c'est je l'ai déjà dit et je le répète, la solidité de la structure financière, donc des capitaux propres renforcés du fait de l'augmentation de capital réalisée au mois de juin 2020, qui vient augmenter les capitaux propres de 35,6 millions d'euros. Une dette financière nette qui passe donc de moins 18,2 millions d'euros à 10,6 millions d'euros, ceci intégrant l'acquisition d'Elex qui a induit un décaissement de 53,3 millions d'euros. Et troisième élément important à nos yeux de ce bilan, c'est une gestion active de notre besoin en fonds de roulement. Donc le BFR, la variation du BFR à périmètre constant, c'est-à-dire ne tenant pas compte des opérations de l'opération Elex, hors effet des postes Elex. Et donc cette variation s'élève à moins 3,5 millions d'euros, ce qui est tout à fait soutenable et qui est principalement le fait de l'augmentation des niveaux de stock à fin S1 afin de faire face à la croissance de l'activité sur le S2. Le tableau de flux, la situation des cash flows du groupe que vous voyez sur l'écran traduit, je dirais, en flux les éléments que je viens de vous indiquer. Des cash flows opérationnels qui sont en progression si l'on met, je dirais, de côté l'impact de la fraude. En progression parce qu'on a une marge brute d'autofinancement qui, avant fraude, reste stable. Elle est de 6,7 millions d'euros sur le S1 2020 en comparaison de 6,5 millions d'euros sur le S1 2019. Et également une variation du BFR qui reste sous contrôle. J'ai parlé de la variation de stock au fin S1, qui s'explique donc par l'évolution de l'activité et la production à venir. Il y a un autre élément que je n'ai pas mentionné, que je mentionne maintenant, c'est également la gestion active du poste client, avec un travail soutenu de suivi et de recouvrement des créances clients. Donc, le groupe n'a supporté aucune défaillance de ses clients, ni de retard de paiement significatif, dans le cadre en particulier de la crise sanitaire. S'agissant des flux liés au CAPEX, évidemment, ils sont impactés, ou en tout cas, ils enregistrent principalement l'effet de l'opération Elex, donc un décaissement net de 53,3 millions d'euros, dont je rappelle qu'il a été financé d'une part par la trésorerie d'ouverture pour un peu plus de 23 millions d'euros, trésorerie d'ouverture qui avait été préparée, entre autres, pour cette opération, et par le tirage du solde de la ligne d'acquisition ligne qui avait été mise en place dès l'année dernière, là également en prévision de cette opération. S'agissant des CAPEX industriels, ils sont restés à des niveaux tout à fait maîtrisés, 5 millions d'euros, dont plus de la moitié porte sur les projets de développement du groupe qui rentrent pleinement dans sa stratégie. Les cash flows liés aux opérations de financement, si je mets de côté donc le tirage de la ligne d'acquisition qui viennent financer pour partie l'opération d'Elex, toutes ces opérations de flux de financement sont destinées à permettre au groupe d'assurer sa flexibilité financière sur des opérations de croissance externe à venir, c'est le fait de l'augmentation de capital, 35,6 millions d'euros, mais également donc, le tirage de lignes comme la ligne donc, PGE pour 15 millions d'euros sur le périmètre français et 900 000 sur le périmètre américain, des lignes BPI. L'ensemble de ces financements permettant au groupe d'assurer sa flexibilité financière sur le court et moyen terme. À l'issue du S1, le groupe a généré des cash flows totaux à hauteur de presque 29 millions d'euros. Sur le slide suivant, donc en synthèse, je me répète certainement, mais c'est important de le souligner, la situation financière du groupe est très saine et très solide. La variation de la dette financière nette, je ne reviens pas dessus, elle vous a été présentée dans la variation des cash flows, elle est présentée ici sous forme peut-être plus visuelle. Les flux des activités opérationnelles, les capex industriels, l'effet important du décaissement d'Elex et l'augmentation de capital. Ce que je souhaitais souligner pour terminer sur cette partie, c'est le plan d'amortissement de la dette brute. Donc la dette brute, elle intègre la dette bancaire, la dette de type location, financement et dette de location. Donc, vous avez la décomposition un petit peu, enfin sur le dernier graphe en bas à droite. Donc ce plan d'amortissement montre qu'effectivement ce profil d'amortissement est tout à fait soutenable pour le groupe. Les 28 millions de remboursement de 1 à 2 ans intègrent le remboursement du plan PGE à hauteur de 15 millions d'euros. Donc c'est un plan d'amortissement parfaitement soutenable au regard de la capacité du groupe à générer structurellement des flux d'activité positifs. Dernier point maintenant, avant de passer la parole à Jean-Marc, l'opération d'Elex, évidemment, n'a pas eu d'impact, comme je vous l'ai dit, sur le résultat du S1 2020. Pour autant, il peut être intéressant d'avoir une vision de ce qu'aurait été ce S1 2020 si nous avions intégré Elex au 1er janvier 2020, et ceci sans tenir compte d'aucune synergie ni d'aucune optimisation. C'est vraiment l'addition du groupe Mibird et de la division laser et ultrasons d'Elex. Ce sont des données, donc bien sûr, non auditées. Et ce qui ressort de ces informations, c'est un chiffre d'affaires pro forma S1 2020 qui se serait établi à 65,5 millions d'euros et un ROC à 4,3 millions d'euros, avec un taux de ROC qui serait supérieur sur l'ensemble consolidé que celui constaté par le groupe Lumibird seul. Donc un effet d'Elex avant toute synergie et avant toute optimisation de l'intégration. Relutif. Voilà, je passe la parole à Jean-Marc.
Bonjour à tous. On a fait un focus, on a décidé de faire un focus sur vraiment l'intégration des marques de Lumibird Médical. Donc, la création de cette marque-là est importante pour nous. Elle va devenir une marque ombrelle. Elle contient bien sûr les marques Cantel Historique, Cantel Médical et Optotech. Et puis, on rajoute avec plaisir le nom de marque Elex à tout ça. Donc l'objectif que nous avions et que nous continuons de poursuivre, c'est vraiment la création de cet acteur majeur dans la prise en charge par laser des traitements et du diagnostic échographique en ophtalmologie. Je rappelle également que nous avons et nous sommes en train de mettre en œuvre le développement d'une division dans ce qu'on appelle le point of care, c'est-à-dire un petit peu en dehors de l'ophtalmologie. Mais là, aujourd'hui, on va plutôt faire un focus sur cet aspect-là. Donc aujourd'hui, deux principaux métiers, j'en ai déjà suffisamment parlé, le laser pour le traitement et l'échographe pour le diagnostic. On travaille vraiment sur quatre domaines d'expertise, le glaucome, la cataracte, les pathologies de la rétine et la sécheresse oculaire. Quels que soient ces marchés-là, on peut considérer dorénavant qu'on a une position concurrentielle qui était historiquement forte et qui est donc là renforcée. Et à ce jour, il y a plus de 80 000 équipements qui sont installés dans le monde chez des praticiens, qu'ils soient publics, privés, hospitaliers ou dans leurs cliniques et quels que soient les pays dans le monde. Donc le réseau commercial pour soutenir cette activité est important. Nous avons une forte présence avec nos ventes directes à travers des filiales aux États-Unis, au Japon, en France, en Pologne et dorénavant dans les pays nordiques. tout ça, et en Australie, pardon, et tout ça fonctionne très bien. Et on a renforcé ça et nous continuons de mettre en œuvre le management de notre réseau de distribution avec plus de 110 distributeurs dans le monde. On verra tout à l'heure la stratégie autour de ça. Il y a 3 sites de production, je les rappelle, hein, Clermont-Ferrand, Ljubljana et Adélaïde pour les 3 marques. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons créé cet acteur de référence auprès des praticiens. Donc sur le transparent suivant, vous rappelez qu'une des raisons qui nous a conduites à cette acquisition, c'était bien sûr les points dont je viens de mentionner, et puis aussi le calcul des synergies entre les marques et qu'est-ce que ça allait nous permettre de faire. Donc sur la gauche, vous avez bien les 3 marques Elex, Optotech et Cantel Medical qui sont regroupées auprès de Lumibird Medical. À l'intérieur de ça, il y a un vrai partage des ressources de R&D et de production, donc des données techniques. Il y a une approche clinique. Il y a la combinaison des présences à la fois en distribution directe et en via nos filiales et via le réseau de distribution. Les marques, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le système d'intégration à l'intérieur du groupe Lumibird, de cette entité Lumibird Médicale. Les synergies étaient importantes. On est maintenant le 23 septembre. Donc, on a pris vraiment les commandes de cette entité-là, Elex, au 30 juin. Et sur le slide suivant, on s'aperçoit que dès le 1er juillet, il y a un point d'étape sur l'intégration et toute une série de synergies qui se sont mises en œuvre à closing. J'ai écrit closing plus zéro parce que certaines avaient presque été anticipées. On voulait encore une fois démarrer très vite et garder de la vitesse. Donc les principales synergies, on peut les regrouper autour de synergies commerciales et marketing. Et des signes forts comme une force de vente unique dorénavant sur des marchés directs en France et aux États-Unis. Dès le mois de juillet, les formations ont eu lieu dès le début juillet. Il fallait former les vendeurs Elex aux produits Cantel et vice-versa. Et ça s'est fait de façon rapide et naturelle. D'abord parce que, en travaillant sur des marchés communs, on n'a pas à expliquer toute la machinerie marché et client. On a juste à se concentrer sur la technique et sur l'avantage de chacun des produits. Ensuite, on a entrepris aussi des choses qui étaient un peu plus douloureuses. Hein. C'est la fermeture des filiales non rentables. Là, je parle par exemple de la filiale allemande d'Elex. Ensuite, on a immédiatement déterminé sur quel événement on allait partir ensemble. Marc a précisé que sur le premier semestre, beaucoup d'événements avaient été annulés. Sur le deuxième semestre, que ce soit au niveau local, au niveau national et au niveau international, on commence à avoir des événements qui reviennent, des congrès qui reviennent. Et là, on a une présence commune. Donc automatiquement, il y a une mutualisation des frais. Ensuite, la rationalisation des réseaux de distribution. Donc ça, c'était un gros challenge. On a démarré ça, pareil, dans le coup de fusil. Et aujourd'hui, on a 3 situations possibles. Soit des distributeurs Cantel Medical qui ont récupéré les produits Elex, c'est la majorité des points. Soit des distributeurs Elex qui ont récupéré les produits Cantel Medical. Et on a quelques exemples. Soit alors, on a laissé, parce que opportunité, les 2 distributeurs travailler ensemble. Et à la fin de ça, pour soutenir tout ça, on a eu une vraie rationalisation du management des ventes. On a choisi à chaque fois ce qu'on considérait comme être la meilleure personne pour pousser soit les réseaux de distribution, soit les filiales en direct. Donc tout ça, c'est plutôt pour la partie commerciale et marketing. Donc il reste encore des travaux autour de ça sur la rationalisation des gammes, les noms de marques, mais tout ça est en cours et interviendra, je dirais, plus près de 2021. Sur un point de vue technique, on a fait des choses relativement simples. D'abord, il y a d'abord un management commun des équipes de R&D. Donc aujourd'hui, le patron de la R&D dirige les 3 équipes à Clermont, à Ljubljana et à Adélaïde. Ça, c'est important. Il y avait des choses techniques évidentes qu'on a implémentées immédiatement. Et puis, ça nous a permis aussi, avec une plateforme plus large, de négocier vis-à-vis de fournisseurs importants qu'on avait de commun, un fournisseur de lampes à fendre, par exemple. On a pu aller le voir en lui disant, dorénavant, il y aura une tête de discussion avec toi et beaucoup plus de volume. Le troisième point qui était important aussi, qui montre dans notre stratégie d'intégration, et là je parle d'intégration groupe, Elex Machine Shop, donc dans le panier de la mariée, il y avait ce centre d'usinage basé à Adélaïde. C'est un usinage intégré de pièces à haute valeur ajoutée et immédiatement on a pu intégrer ça dans notre stratégie d'achat du groupe et je crois que c'est pas plus tard qu'hier, les premières commandes sont parties à l'intérieur du groupe pour usiner et tout ça c'est très intéressant parce que bien sûr ce sont des économies d'échelle. Et le troisième point hein, qui était aussi important, c'est que on a été très très vite pour intégrer complètement Elex dans son reporting financier au niveau du groupe avec une remontée quotidienne, hebdomadaire, mensuelle en fonction des besoins de l'ensemble des informations financières. Donc en fait, les économies d'échelle et les synergies, on va appeler ça les synergies, qu'elles soient commerciales, techniques, financières, étaient une des raisons et un des points clés de notre acquisition et de sa mise en œuvre et de l'intégration d'Elex. Et aujourd'hui, on a démarré rapidement et tous les voyants sont au vert dans ce domaine-là. Marc a précisé que nous avons globalement, au niveau de la division médicale, une bonne perspective pour la fin de l'année. Les carnets de commandes sont pleins, le chiffre d'affaires est proche des objectifs initiaux pré-Covid. Donc tout ça nous montre que nous avons démarré du bon pied sur cette acquisition. Donc après avoir vu les résultats économiques, avoir fait ce point sur Elex, je crois qu'il reste un dernier point, Marc, sur la vision stratégique qu'on peut avoir sur les perspectives et la stratégie. Et là, je te redonne la parole.
Pour rappeler les objectifs donc qui sont donc enfin pour le groupe donc des objectifs de croissance donc bon, organique évidemment mais externe donc on a voilà donc l'objectif c'est d'aller vite donc de construire le groupe donc de le développer donc développer ses activités prendre des parts de marché mais évidemment parallèlement à ça donc d'en tirer les bénéfices à savoir donc qu'au travers de ce développement d'activité, donc on puisse donc voir les marges donc progresser et on sait en fait donc qu'on a un gisement de marge donc important encore à aller chercher. Donc notre stratégie donc bon, vise donc à satisfaire ces deux objectifs donc bon, il n'y a pas de changement, je dirais, donc dans la stratégie. Donc, elle est axée en fait donc sur les trois pôles principaux sur lesquels donc on voit en fait donc de la croissance donc et de la rentabilité à aller chercher. Donc, parce qu'on a déjà une position de leadership donc sur ces marchés-là. Donc, ce sont les marchés en fait donc de l'ophtalmo donc pour la partie médicale. Donc, avec un pôle donc maintenant donc très très conséquent. Donc, avec le dernier ajout en fait d'Elex. Bon, ça en fait cette masse critique donc évidemment donc est de nature donc à capturer en fait d'autres parts de marché donc à les grignoter en fait donc bon les compétiteurs donc et à développer en fait des synergies écraser nos marges donc écraser nos charges pardon donc sur l'ensemble donc de la partie donc médicale donc sur le LIDAR bon clairement donc bon, l'ajout en fait donc de Halo Photonique avec le système cette montée en fait donc dans la chaîne de valeur est créatrice donc de beaucoup de valeur en fait parce qu'en fait on livre en fait donc le cœur optique du système mais on est mieux préparé en fait donc pour également répondre aux exigences donc bon, des clients sur les marchés en fait donc éoliens sur le marché du scan 3D et sur le marché de la DAS même si le marché de la DAS donc comme on vous l'a expliqué donc est un peu poussé mais donc reste donc pour nous un marché à fort potentiel donc sur lequel donc rien n'est joué encore donc et la capacité technologique donc de répondre avec donc des produits donc innovants et donc faible coût et de ce point de vue là donc essentiel c'est là-dessus qu'on travaille donc marché du LIDAR donc, de toute façon vous le voyez sur les chiffres donc bon, très belle performance donc actuelle et à venir donc enfin sur défense donc spatiale c'est un marché l'aérospace donc de façon générale donc bon, donc une segment de marché qui nous intéresse donc pour plusieurs raisons parce qu'en fait donc c'est un marché donc captif bon, sur lequel donc il y a de la visibilité donc l'historique nous a montré en fait donc l'historique de Cancel donc particulièrement montré en fait que donc en cas de difficulté ça reste donc en fait des marchés en fait donc qui aident énormément donc pour maintenir une activité donc en place donc et les compétences donc pour que l'entreprise donc passe quelquefois des trous d'air et puisse donc se redéployer donc quand les jours sont meilleurs. Donc ça nous donne de la visibilité sur les marchés à forte marge donc et c'est également en fait donc des activités avec de fortes synergies en fait sur le civil donc c'est par ailleurs donc mon donc un faire-valoir technologique donc important donc Quand on parle de spatial, pour le développement en fait, des liaisons intersatellites, pour les secteurs en fait, de la défense. Donc voilà, c'est ces trois marchés sur lesquels on va continuer de progresser. Je pense que vous aurez des questions en fait, sur les croissances externes. Mais sachez que voilà, l'équipe de management est totalement confiante sur nos capacités en fait à faire de ce groupe Lumibird vraiment une très très belle histoire industrielle et technologique française, européenne et mondiale. Donc je vais vous laisser la parole maintenant pour les questions. Merci à tous.
Nous allons à ce moment commencer la session questions et réponses. Afin de pouvoir poser une question, veuillez composer étoile suivi par 1 sur votre appareil téléphonique. Si vous changez d'avis et voulez sortir votre nom de la liste des questions, veuillez appuyer étoile et 2. Toute personne voulant poser une question peut composer étoile suivi par 1 à ce moment. Toute personne voulant poser une question peut composer étoile suivi par 1 à ce moment. La première question est de la part de Monsieur Eric Blaine de Finance Connect. À vous la parole, monsieur.
Oui, bonjour. Vous m'entendez bien?
Oui, nous vous entendons bien, monsieur. Très bien.
OK. Oui, juste plusieurs petites questions. Concernant d'abord l'évolution des stocks, vous avez mentionné que le stock Orelex avait progressé de manière assez significative. Est-ce que vous pourriez préciser dans quel domaine ce stock a-t-il augmenté? Ça, c'est la première question. Et puis, lié à cette présentation également, vous parlez d'une baisse de l'activité défense qui est tout à fait liée à une facturation, semble-t-il. Qu'est-ce que vous attendez sur le second semestre sur cette activité défense? C'est mes deux premières questions.
D'accord. Très bien. Écoutez, je peux répondre sur la deuxième question et je laisserai Aude préparer la réponse sur la partie stock. Sur l'évolution de la défense, pour le deuxième semestre, oui, on prévoit effectivement que ça soit meilleur que sur le premier. On est effectivement impacté négativement sur le S1. Il y a un calendrier de livraison qui n'était pas favorable. Ça sera effectivement meilleur sur le deuxième semestre.
Ça sera donc rattrapé au second semestre?
Oui, ça sera meilleur effectivement que sur le premier semestre. Alors, on n'a pas donné de tendance, c'est par marché, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas un marché qui est en décroissance. On a des livraisons attendues plus importantes sur le premier semestre et par ailleurs d'autres marchés qui se rajoutent sur le reste de en fait.
Concernant les stocks, donc l'évolution des stocks, la variation est de plus 5 millions d'euros et elle se répartit harmonieusement 50-50 sur la division laser et la division médicale pour les raisons que j'ai indiquées dans les deux cas, la préparation des livraisons et la production et les livraisons sur le S2. Si c'était votre question par la répartition, et effectivement, on constate que c'est bien le poste matières premières et marchandises qui a augmenté comme je vous le disais, la réalisation des productions et des livraisons sur le S2.
D'accord. Et je vous donnais pas d'indication sur ce que vous attendez comme chiffre sur l'année dans votre présentation. Le second semestre bénéficie d'une saisonnalité également ou pas?
D'une saisonnalité sur?
Sur l'activité. Je pense à l'activité LIDAR et l'activité défense. Il y a Elex qui va venir au second semestre, bien évidemment, mais...
Oui, il y a toujours une saisonnalité. Si vous regardez l'historique, en fait, des activités entre S1 et S2, S2 est toujours, donc, en termes d'activité, plus important que S1. Donc, il y a effectivement un effet fin saisonnier particulièrement important sur le dernier trimestre.
Et qui va être amplifié cette année, si je comprends bien, par ce qui a pénalisé le premier semestre.
Voilà, donc l'objectif pour nous, c'est de rattraper notre retard, donc d'une part sur S1, et d'autre part de faire face à l'accroissement de l'activité liée à la saisonnalité. Les deux sujets à traiter donc sur S2.
Et la saisonnalité est vraie également pour Elex ou c'est bon, c'est moins vrai?
Jean-Marc, tu veux répondre?
Pardon. Que ce soit Elex ou Cantel Medical. En général, la saisonnalité dans nos métiers existe puisque nous travaillons aussi avec des pays dont la défiscalisation de fin d'année par nos clients est importante, et notamment sur les États-Unis par exemple, où Elex est très présent. Donc d'une façon générale, on a un dernier trimestre, que ce soit pour Elex, pour Cantel Medical ou pour Optotech ou d'ailleurs les autres métiers du médical qui est importante.
Et est-ce que les coûts de restructuration, de réorganisation que vous avez parlé sur Elex de fermeture et de réorganisation, tout est passé en compte ou est-ce qu'on aura des coûts au second semestre?
Alors il y aura des coûts au second semestre, mais qui seront compensés par les économies qu'on va faire, donc ça sera transparent par rapport à ça.
Le pôle santé.
Il n'y a pas de restructuration majeure.
Hein. Non, il n'y a aucun coût de restructuration majeure.
Et le pôle santé, vous le voyez avec quel type de marge, compte tenu des synergies que vous avez observées maintenant par rapport à ce que vous avez anticipé au départ?
Alors pour cela, c'est un métier. Elex, je rappelle que c'est une entreprise qu'on connaît bien, puisque c'est notre principe, ça a été un de nos concurrents principaux pendant des années. Donc le modèle de marge d'Elex est comparable au modèle de marge de Cantel Medical. Elex a toujours eu un positionnement haut de gamme en termes de produits, donc que ce soit en pourcentage ou même en valeur brute, les marges générées par Elex sont intéressantes. Donc l'objectif, c'est d'aller bien sûr intégrer ces marges-là à l'intérieur de nos notre compte de résultats.
Ce serait une marge opérationnelle en pourcentage de quel ordre d'idée que vous souhaiteriez atteindre sur l'ensemble du pôle? Parce que votre activité Cantel profite, si j'ai bien compris, de l'intégration d'Elex.
Oui, les deux, ça va se nourrir mutuellement. Ça va se nourrir mutuellement des deux côtés. Donc aujourd'hui, je rappelle qu'on travaille dans l'équipement médical, donc les marges qu'on retrouve dans certaines références qui contiennent à la fois du consommable, à la fois du pharmaceutique et tout, sont toujours beaucoup plus élevées. Mais être dans une marge qui se situe aux environs entre 55 et 60%, c'est le type de marge qu'on doit aller chercher, n'est-ce pas, Aude?
Tout à fait.
C'est la marge brute, ça?
La marge brute, oui.
D'accord. Ok, merci.
Toute personne voulant poser une question peut composer étoile suivi par 1 à ce moment. La prochaine question est de la part de Stéphanie Brunel de Financière 12. À vous la parole.
Excusez-moi, j'étais en mode silence. Merci, bravo à tous pour cette résistance. Belle qualité dans ce contexte compliqué. Au niveau de la fraude, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit point sur où vous en êtes, des enquêtes et si éventuellement on peut espérer récupérer une partie?
Oui, bonjour. L'enquête judiciaire n'a pas permis en fait de rattraper les fraudeurs, malheureusement. Il a été retracé en fait l'ensemble des transactions qui ont été faites. Donc aujourd'hui en fait il y a une certaine partie en fait des fonds qu'on va peut-être récupérer, mais c'est de l'ordre de 10%. Donc donc des fonds qui ont été gelés, dont on a réussi en fait donc à geler les comptes et qu'on est en train de réclamer. Donc bon, voilà, donc ça c'est pour une première partie. Bon, la deuxième, ce qu'on peut dire sur la fraude, ce sur quoi on s'oriente aujourd'hui, donc c'est d'aller chercher les responsabilités, notamment donc des banques, pour essayer de compenser donc ces pertes, donc dans la mesure où un certain nombre de, si les enquêtes donc le prouvent, donc toutes les précautions donc requises n'ont pas nécessairement été étaient faites en fait pour suite à ces transactions qui il y en a eu une vingtaine de virements qui ont été faits donc sur des niveaux importants, donc avec des temps de virement donc extrêmement courts. Donc voilà aujourd'hui on n'a pas aujourd'hui récupéré de fonds, donc par contre donc les conséquences de ça, donc de cette fraude, donc seront effectivement donc potentiellement donc des contentieux donc avec certains acteurs, donc pour mais là pour le coup on ne sait pas en fait donc quel en sera donc l'impact donc sur la récupération donc de certaines pertes, de compensation de certaines pertes.
D'accord, merci. Et alors vous aviez évoqué lors de précédentes réunions des croissances externes dans le secteur de la défense. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Donc c'est en cours pour deux dossiers aujourd'hui. Donc on espère bien avant la fin de l'année, donc j'espère au moins pouvoir communiquer sur un d'entre eux. Et puis il y a un petit et un plus gros, sur la partie défense, mais il y en a d'autres à côté, hein, donc il n'y a pas que la partie défense qui est concernée, mais ça avance, j'irais bien, donc même si c'est pas très très rapide, mais ça avance selon le calendrier, et pour l'instant donc on est toujours dans la course, donc avec sur un des deux dossiers donc une vraisemblance donc importante donc qu'on arrive au bout. Le deuxième donc on est dans un contexte de bid, on est un petit peu plus challengé en fait donc sur le deuxième projet.
Les restrictions de déplacement peut-être des impacts, ou est-ce que vous avez des opportunités, vous voyez arriver des sociétés qui se retrouvent en difficulté et qui cherchent à s'adosser avec peut-être des technologies complémentaires?
C'est vrai, donc tout à fait. Pour ça qu'on a souhaité en fait renforcer en fait nos fonds propres pour se préparer à ce type d'opportunités qui arrivent. Donc on a quelques-unes qui se présentent, donc qui sont étudiées, qui sont en cours, donc des nouveaux projets. La difficulté c'est évidemment aujourd'hui les contraintes de circulation qui font que ça rend forcément donc les choses un petit peu plus compliquées sur certains projets qui peuvent être un petit peu lointains. Et je pense que ça continuera de le nombre d'opportunités sont plus en plus importantes particulièrement donc en 2021.
Et au niveau du dynamisme des zones, quand on parle un peu à d'autres sociétés implantées mondialement, ils disent que l'Europe est quand même assez morose, quand en Asie vraiment il y a eu un redémarrage extrêmement vif. Est-ce que vous voyez la même chose?
Moi je peux répondre.
Oui, je te passerai la réponse la après, Jean-Marc. Donc, ça dépend de l'activité. Jean-Marc Palorace, moi, donc, du médical. Sur la partie défense et LIDAR, c'est pas du tout pareil, en fait, donc, selon les zones. Aujourd'hui, sur la partie LIDAR, on est plutôt très bien, donc, en Europe. enfin sur la partie défense aussi, donc forcément. Donc sur la partie médicale, que les choses sont peut-être un petit peu différentes, donc Jean-Marc.
Alors, elles sont différentes dans la mesure où, justement, l'Europe et notamment certains groupes, paradoxalement, un pays comme l'Italie marche très bien actuellement. Bon, la France se maintient, l'Allemagne, l'Angleterre aussi. Donc, sur l'Europe, nous, au niveau du médical, on a moins senti le creux. En début d'année, c'était l'Asie et on a mentionné ça dans nos résultats du premier semestre. Aujourd'hui, je dirais que le seul continent critique par rapport à nos objectifs, c'est l'Amérique du Sud. Où clairement, outre l'impact sanitaire, il y a aussi une vraie crise économique, notamment en Argentine. Donc c'est là où on voit la zone qui, quelque part, redémarre le plus doucement ou même ne débarre pas ou n'est pas en ligne avec nos espoirs. Après, il reste toujours la question du marché d'Amérique du Nord. Il y a les élections dans peu de temps. Dans notre métier, c'est important. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de défiscalisation tout à l'heure. Le gouvernement va produire les règles de défiscalisation de fin d'année. Et alors, que ça soit démocrate ou républicain, ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais en tous les cas, il y a une attente. Donc, on peut avoir une question sur ces territoires-là. Mais aujourd'hui, vous avez raison, l'Asie marche plein beau. L'Europe a redémarré et à part l'Amérique du Sud, le reste est dans le rythme.
OK.
Monsieur Le Floic, nous n'avons pas de questions en ce moment.
Très bien, donc on va attendre encore un petit peu.
Ah, la question suivante est de la part de M. Damien Lanternier de DNCA. À vous la parole, monsieur.
Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de l'intégration de Halo Photonics? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une intégration un petit peu industrielle? Et puis revenir peut-être sur la perspective de développement au deuxième semestre et peut-être en termes de développement de nouveaux produits, si vous pouvez partager. Question aussi, vous parliez il y a peu de temps des nouveaux développements aussi de votre équipe de R&D au Canada sur le LIDAR avec l'arrivée de nouveaux produits, si vous pouviez en dire un petit peu plus. Et puis peut-être une dernière question sur juste pour comprendre sur le médical, parce que la marge brute de Elex est inférieure à votre marge brute. De ce que j'en comprends, ils ont des produits très haut de gamme, donc qui se vendent cher. Pourquoi est-ce qu'il y a cet écart de marge brute? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être compensé par plus d'intégration ou il y a un élément fondamental qui fait que la marge brute est inférieure?
OK. Écoutez, je fais une partie de la réponse. Jean-Marc, la deuxième. Et Aude, ouais. Peut-être sur la partie marge, je ne sais pas. Donc, ouais. Bonjour. Et donc sur la partie intégration Halo, donc comme vous l'avez noté, donc Halo est un petit groupe, cinq personnes. Donc, pour nous, il est assez essentiel en fait de transférer, d'intégrer en fait donc le savoir-faire. Donc il y a donc des transferts technologiques. Donc ça c'est le premier sujet pour nous. Donc s'assurer en fait qu'on absorbe en fait ce savoir-faire au sein de l'univers. Donc c'est transféré pour une partie en fait le savoir-faire pour l'essentiel en fait sur l'équipe canadienne. Donc ensuite sur la partie industrielle, notre objectif n'est pas en fait de développer un nouveau site industriel pour le LIDAR. Donc il est vraiment d'utiliser en fait nos sites actuels de production. Et j'en ai peut-être pas beaucoup parlé, c'est l'occasion. Donc notre objectif industriel aujourd'hui il est que l'on se spécialise en fait par site sur certaines technologies et de garder en fait un nombre limité de sites. Pour le coup sur la partie LIDAR, le site de Lannion est prévu en fait de répondre aux besoins. Donc on a un environnement de production à Lannion aujourd'hui en fait essentiellement sur les technologies laser, un petit peu sur le médical. Donc on va y rajouter en fait une production de LIDAR parce qu'on a l'environnement de production, parce que on a le système qualité, parce qu'on a la logistique, etc. Ça évite d'aller déployer évidemment un outil industriel en Angleterre ou ailleurs. Donc ça, donc le transfert, donc les premières lignes, donc les premières fabrications, donc à Lannion, donc se feront à partir de du premier trimestre, donc l'an prochain. Donc sachant qu'aujourd'hui, donc l'essentiel de la production, donc est fait donc d'une part donc en Angleterre et d'autre part donc au Canada pour une certaine partie. Ça, c'était pour Allo. Deuxième volet de votre question, donc sur les autres technologies, en fait, donc notamment donc au Canada. Allo, en fait, donc c'est essentiellement donc le système LIDAR pour la mesure de vent. Donc bon, il se trouve qu'au Canada, on a également donc développé en fait donc un autre système donc LIDAR, donc dont l'objectif en fait est de faire de la détection d'obstacles, donc ou la cartographie, ou reconstituer en fait donc l'environnement. Alors bon, évidemment, on va pas aller donc concurrencer nos clients sur la DAS. Donc pour nous, il y a deux objectifs. Donc d'une part, en fait, de livrer des sous-modules ou des semi-finis, en fait, donc qui pourraient en fait donc être intégrés plus facilement par certains de nos clients, donc sur le LIDAR. Et d'autre part, en fait, donc d'adresser d'autres marchés. Il y a le marché maritime, donc qui nous intéresse énormément, donc pour la détection donc d'objets, donc que ce soit donc objets flottants, donc par exemple. Mais bon, il y a énormément donc d'applications donc liées en fait donc au déploiement de véhicules spécialisés. Donc ça, c'est pas le véhicule donc de monsieur tout le monde, donc ça peut être des camions qui descendent dans les mines, donc les trains. Donc tout ce qui est donc ferroviaire, en fait, a besoin aujourd'hui en fait de systèmes de détection d'obstacles. Donc ce type de produit donc en fait donc a un potentiel d'y répondre. Enfin, en tout cas, c'est un des marchés qu'on regarde. Donc puis après, bon, il y a d'autres applications comme la logistique portuaire, donc pour le transport de conteneurs, etc. Donc beaucoup d'applications donc sur cette technologie en fait donc de LIDAR, donc non pas de vent mais de mesure d'environnement en fait donc et d'obstacles. Sur le médical, donc Jean-Marc va vous répondre.
Donc la question elle était autour des marges sur le médical. Donc en effet Elex avait une structure, à la fois une structure de production, une structure de coût on va vers le haut de gamme, donc entre parenthèses, de production chère, et l'objectif par les synergies. Je voulais mentionner tout à l'heure dans le fait qu'avec un des principaux clients, des principaux fournisseurs, on avait été déjà dans la mutualisation de nos achats, et c'est tous ces points de marge qu'on va aller chercher pour pouvoir établir la marge à notre niveau standard qui est encore une fois plus proche des 60%. Donc Elex, basé en Australie, il faut faire attention à ce qu'on fait dans les mouvements de la supply chain. Et toutes ces choses-là vont participer à l'augmentation de cette marge-là. On sait qu'on a des points de marge à aller chercher et on s'attache à ça régulièrement. Aude, est-ce que tu as un calcul plus précis ou une cible, non, un écart plus précis? Je ne crois pas qu'on puisse en parler tout de suite, mais...
Exactement.
En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des points de marge à aller chercher chez Elex dans leur marge brute, parce que à travers les synergies, à travers des remises en cause de certaines techniques, et je vais juste donner un seul exemple. Elex produit un laser dans lequel il y a une cavité. Cette cavité, ils l'achètent à l'extérieur, ils ne la produisent pas. Cette cavité, elle est disponible dans le groupe, et une de nos premières priorités, c'était de faire le nécessaire pour pouvoir intégrer cette qualité dans leur laser. Alors, ça ne se fait pas à l'instant T, ça nécessite de réfléchir un peu, notamment sur les certifications qui sont liées à ça, mais clairement, c'est une piste. Et là, on parle de quasiment 2 000 $ par, 2 000 $ par produit, là, par exemple.
Nous n'avons pas de questions en ce moment.
Attendons encore un petit peu. Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, juste pour conclure, donc l'équipe donc en fait aujourd'hui travaille donc sur un plan stratégique. Donc nous serons en mesure en fait donc de communiquer une guidance donc pour vraisemblablement novembre, donc de façon à bien repréciser en fait donc le nouvel environnement. Et vous donner en fait donc les chiffres donc associés donc on va simplement en guidance à 3 ans donc à la fois en fait donc chiffre d'affaires et marge donc bon parce que c'est important évidemment que d'acter sur le fait que bon le projet Lumibird d'aujourd'hui donc n'est plus le même que le projet Lumibird il y a un an de ça en fait donc on va mettre à jour en fait cette guidance, on vous la propose donc pour novembre. Donc bon par ailleurs donc j'espère qu'on aura le plaisir de rééchanger donc au fil des actualités de S2. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Donc merci encore à tous de votre attention et de votre support. Merci. À bientôt.